Mardi Politique sur RFI et France 24.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur RFI. Ce soir, nous sommes avec Benjamin Haddad. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député Renaissance de Paris et chercheur en relations internationales, ce qui, dans le contexte que nous connaissons, n'est pas inintéressant, évidemment. En effet, d'ailleurs, Vladimir Poutine a ordonné lundi que son armée organise prochainement des exercices nucléaires. Le Kremlin précise qu'il s'agit d'une réponse aux propos de dirigeants occidentaux, notamment ceux d'Emmanuel Macron, sur l'hypothèse d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Est-ce que les déclarations, est-ce que ces manœuvres militaires nucléaires ordonnées par Vladimir Poutine doivent nous inquiéter ?
On est face à des tactiques d'intimidation qu'on connaît bien, puisque Vladimir Poutine est coutumier du fait. Je vous rappelle qu'il avait déjà fait ça, d'ailleurs, au moment de l'annexion de la Crimée dès 2014, et bien sûr de façon répétée depuis 2 ans. Ce sont des sujets qu'il faut toujours traiter avec beaucoup de précaution. Et je crois que sur les sujets nucléaires, le moins on en dit, le mieux on se porte. L'Alliance Atlantique, l'Europe, la France sont aussi dotés de la dissuasion nucléaire, je le rappelle. Et puis, surtout, je crois que de la part de la Russie, on voit une tentative de déstabilisation de nos opinions publiques. Le pari de Vladimir Poutine depuis le début de cette guerre, c'est qu'on va avoir peur, qu'on va se lasser, qu'on va se diviser. Et jusqu'ici, les Européens, les Occidentaux sont restés fermes et unis dans le soutien à l'Ukraine. Donc on voit régulièrement cette tactique de propagande, de communication qui, je le crois, vise nos opinions publiques. Moi, je crois qu'il faut qu'on reste calme, déterminé, unis et extrêmement ferme face à l'agression de la Russie contre l'Ukraine.
Est-ce qu'il faut tout de même prendre au sérieux une doctrine d'emploi de l'arme nucléaire par la Russie qui serait beaucoup plus souple, on va dire, que les autres grandes puissances nucléaires qui n'en font qu'une arme de dernier recours? Or, Vladimir Poutine a dit à plusieurs reprises que le nucléaire tactique pourrait être employé sur le champ de bataille.
Je crois que la seule façon de pouvoir dissuader le régime de Vladimir Poutine, c'est d'assumer le rapport de force. Ce n'est pas de montrer de la faiblesse, de la division ou des hésitations. C'est le discours du président de la République quand il a réuni 20 chefs d'État et de gouvernement il y a quelques semaines à Paris pour d'abord voir comment on peut rehausser nos ambitions dans l'aide à l'Ukraine, que ce soit les coalitions sur les missiles de longue portée, sur les tanks, sur les défenses antimissiles dont les Ukrainiens ont cruellement besoin, les munitions bien sûr, sur le terrain pour pouvoir résister à l'agression. Et puis, c'est d'assumer de parler différemment. Vous savez, depuis 2 ans, face à la Russie, on passe notre temps, nous, collectivement, Européens, Américains, à se fixer nos propres lignes rouges, à négocier avec nous-mêmes, à placer des limites et à les communiquer à l'adversaire.
Alors qu'on voit au contraire, elles ont beaucoup évolué, ces lignes.
Alors, bien sûr, mais justement, alors qu'au contraire, on a un dirigeant russe qui, lui, ne se fixe aucune limite dans son agression et dans la menace. Eh bien, le président de la République a raison d'appeler à un sursaut collectif des Européens et de dire que désormais, c'est à Vladimir Poutine que l'on doit fixer des limites et des lignes rouges et donner aux Ukrainiens tout ce dont ils ont besoin pour remporter cette guerre.
Et pourquoi Emmanuel Macron continue-t-il d'évoquer ce scénario de l'envoi de troupes au sol alors que ça n'est pas du tout la ligne défendue par l'OTAN ?
Déjà, le président de la République, vous le savez, il avait répondu à une question en disant rien ne doit être exclu.
Oui, il l'a redit il y a quelques jours.
Mais il n'y avait pas de consensus. Mais c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que désormais, si on considère que cette guerre est existentielle pour les Européens et donc pour notre pays, que si demain on laisse la Russie gagner en Ukraine, c'est un tiers des exportations de céréales et de grains, avec évidemment le chantage que ça pourrait représenter sur les prix de l'alimentation et donc sur le pouvoir d'achat des Français. C'est la suite du chantage sur les prix de l'énergie. C'est une Russie agressive aux portes de l'Europe, des États baltes, de la Pologne, de la Roumanie, peut-être à un moment où les États-Unis se tournent à nouveau vers Donald Trump et donc nous tournent le dos. Oui, c'est l'existence de l'Europe qui est en jeu avec cette guerre en Ukraine. Et dès lors, ce n'est pas à nous de nous auto-censurer, de négocier avec nous-mêmes, de nous placer des limites. C'est maintenant le régime de Vladimir Poutine que nous devons confronter, que nous devons dissuader, auquel nous devons mettre des limites dans l'agression.
Il y a une autre menace très précise et très explicite. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé lundi que ses forces pourraient frapper toute installation ou équipement militaire britannique sur le territoire ukrainien et au-delà, si Kiev utilisait des armes britanniques contre des cibles en Russie, est-ce que nous sommes en train de nous approcher dangereusement, mais sûrement, d'un conflit mondial ?
Toute l'escalade dans cette guerre vient à la responsabilité de la Russie. C'est la Russie qui a choisi la guerre, alors que nous avions tenté la voie diplomatique. Le président de la République s'est rendu à Kiev et Moscou, a voulu réfléchir avec Vladimir Poutine à l'époque sur des questions de limitation des armements, sur des questions d'architecture de sécurité européenne qui intégrerait les intérêts de sécurité de la Russie. Vladimir Poutine a tourné le dos. Et tant de fois, depuis 20 ans, on a vu la guerre contre la Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée et déjà le début de l'agression contre le Donbass en 2014, l'intervention pour sauver le régime criminel de Bachar el-Assad en 2015, nous avons détourné le regard. On a voulu repasser à la normale.
Mais vous ne répondez aujourd'hui, pas à ma question. Est-ce qu'on s'approche de ce conflit mondial ?
Non, je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, la seule façon de prévenir une guerre plus large, de prévenir une Russie qui serait victorieuse en Ukraine et qui serait peut-être aux portes de l'Europe avec la menace de sécurité que ça représenterait pour toute l'Europe ou pour l'Alliance Atlantique, c'est précisément de donner aux Ukrainiens les moyens de se battre, de se défendre et de regagner leur territoire en Ukraine. C'est là le test aujourd'hui pour la sécurité de l'Europe.
Il y a aussi ces menaces de sabotage révélées par le Financial Times. Selon le journal britannique, le directeur des services de renseignement allemand aurait informé ses homologues français, suédois et britanniques de l'imminence de plusieurs attaques dans les différents pays européens avec un potentiel élevé de dégâts humains et matériels, que ce soit sous la forme d'attentats à la bombe, d'incendies criminels ou de cyberattaques. Si cela se confirmait, est-ce qu'au fond ça serait une forme de déclaration de guerre informelle, mais une déclaration de guerre tout de même?
Mais vous savez, c'est ce contre quoi les autorités françaises mettent en garde depuis longtemps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a renforcé
beaucoup plus de cyberattaques. Alors il y a eu de guerre de l'information.
Mais on le voit, ce régime devient de plus en plus agressif à notre égard. Des cyberattaques contre des infrastructures, mais de quoi on parle? Quand on fait des cyberattaques contre des hôpitaux, ça met en danger la vie des Français. Ce sont des patients qui, demain, pourraient être débranchés parce que la Russie s'infiltre dans les systèmes informatiques de nos hôpitaux, comme ça a été le cas à Corbeil-Essonne. Ce sont des ingérences dans le processus démocratique, donc qui mettent en danger la vie démocratique, politique de notre nation. Ce sont des opérations de propagande et de désinformation. Ce sont l'utilisation, parfois, de forces politiques contre notre propre pays. Voilà ce que mène la Russie depuis des années. Il faut le dire, la Russie a désigné l'Europe, l'Union européenne, comme son ennemi. C'est un régime révisionniste qui vise à nous déstabiliser. Nous n'avons pas fait ce choix. Nous avons toujours fait le choix, au contraire, de tendre la main et de la diplomatie. Vladimir Poutine a déclaré, il a toujours été très clair, moi je crois qu'il faut écouter les régimes autoritaires quand ils nous parlent. Et il dit que la chute de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Eh bien voilà quelqu'un aujourd'hui qui veut recréer une forme d'empire russe, un glacis autour de lui avec les ex-républiques soviétiques comme l'Ukraine, comme la Géorgie, comme la Moldavie, où il manipule des conflits gelés, et puis qui menace directement nos démocraties. Il faut être capable d'en tirer les conclusions. Mais je vais vous dire, c'est pas nouveau, puisque nous avons considérablement renforcé ces dernières années nos moyens de défense cyber, notre politique sur les questions d'influence. Lors de la loi de programmation militaire qui a été portée par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, on a considérablement augmenté nos moyens de renseignement. Et puis, on s'adapte, on agit. Je vais vous donner juste un exemple. C'est la même Russie qui, via la guerre hybride qu'elle nous mène avec les milices Wagner, est allée lutter contre nos intérêts, notre influence sur le continent africain. Et rappelez-vous que Wagner avait mis en place des faux charniers pour accuser la France d'un massacre à Gossi, au Mali, et ça avait pu être débunké, comme on dit, c'est-à-dire dénoncé de façon transparente et ouverte par notre ministère des Armées. Donc on s'adapte, on est extrêmement vigilant face à cette menace et on trouve les moyens de se défendre.
Le président chinois est en visite officielle en France en ce moment. Il assure vouloir participer avec la France à résoudre cette crise de la guerre en Ukraine. Est-ce que vous croyez que Xi Jinping, s'il le décidait, soit en mesure d'exercer une pression qui serait décisive sur Vladimir Poutine?
C'est une question difficile. Je pense que depuis 2 ans, Xi Jinping a fait le choix clairement de soutenir le régime russe. Il le soutient sur le plan diplomatique, on le voit aux Nations Unies, le soutien sur le plan économique, et la Chine, comme d'autres, permet à la Russie aussi de contourner les sanctions en achetant par exemple une partie de son pétrole ou en exportant un certain nombre de pièces dont ils ont besoin, y compris pour leur industrie de l'armement, sans pour autant franchir le pas par exemple d'une aide militaire directe. Le président de la République a raison de vouloir maintenir ce dialogue exigeant, ferme, et ce dialogue avec le président chinois, et effectivement de faire en sorte que la Chine puisse jouer un rôle constructif pour pouvoir poussé les Russes à accepter des négociations, ce à quoi ils se refusent aujourd'hui. Je traite un exemple, par exemple, où la médiation européenne, et en particulier française, a pu faire avancer. Pendant longtemps, le président chinois refusait de parler aux dirigeants ukrainiens, à M. Zelensky, depuis le 24 février 2022. Eh bien, la dernière fois, quand le président de la République s'est rendu en Chine l'an dernier, avait évoqué cette possibilité avec Xi Jinping, peu de temps après, je crois une semaine ou 10 jours, il y a eu un premier échange téléphonique. Bon. Mais aujourd'hui, on est quand même sur des positions qui sont assez éloignées. Lorsque les Chinois ont proposé un certain nombre de principes pour une négociation, ça n'inclut pas le retrait des troupes russes d'Ukraine, qui est évidemment une précondition. Donc nous avons raison de maintenir ce dialogue avec le dirigeant chinois, de les pousser à essayer de pousser la Russie à mettre fin à son agression, à jouer un rôle plus constructif. Je crois qu'il faut être lucide sur ce qu'on peut attendre pour l'instant, puisqu'encore une fois, la Chine jusqu'ici a fait le choix de soutenir la Russie. Mais c'est notre responsabilité.
Vous pensez que la Chine n'a pas fait autant qu'elle aurait pu faire ?
En tout cas, c'est notre responsabilité, français comme européen, de maintenir ce dialogue exigeant avec les Chinois pour essayer de trouver une issue à la guerre d'agression en Ukraine.
C'est ce soir qu'aura lieu le grand meeting de lancement de la campagne européenne de Renaissance. Il était temps, non, d'une certaine manière. Est-ce que vous ne pensez pas que Valérie Ayer a pu se sentir un peu seule ces dernières semaines?
Valérie Ayer est en campagne et elle est soutenue par le président de la République, le gouvernement,
pas
les parlementaires.
Pas encore très engagé, le président de la République.
Il est sur la photo programme. Oui, et vous connaissez surtout l'engagement européen qui est au cœur du président de la République depuis 7 ans. On célèbre aujourd'hui les 7 ans de son élection. Et s'il y a vraiment une ligne rouge permanente,
ne lui conteste sa constance en la matière.
Son soutien à la construction d'une Europe souveraine qui est capable de s'affirmer, de défendre sa puissance, ses intérêts, sa sécurité sur la scène internationale, qui met fin à la naïveté sur le plan militaire, sur le plan commercial comme technologique, qui ne veut pas juste sortir de l'histoire et être effacé entre les États-Unis et la Chine, mais qui prend la maîtrise de son destin. C'est ça, ça a toujours été la vision du président de la République, c'est celle que porte Valérie Ayer avec notre liste et notre majorité dans cette élection européenne qui, je crois, sera l'élection européenne la plus importante de l'histoire. On parle de l'Ukraine et des questions de sécurité. Si demain, nous avons un Parlement européen qui est bloqué par l'extrême droite, c'est ce que souhaite Jordan Bardella et ses alliés d'extrême droite comme l'AFD en Allemagne et partout en Europe. Eh bien, on ne pourra plus financer le plan de munitions de Thierry Breton à destination des Ukrainiens. On ne pourra plus financer l'aide économique, financière, humanitaire qui a été décidée par les chefs d'État à l'attention de l'Ukraine. Ce sont des choses extrêmement concrètes. Le Rassemblement national veut se dérober. Il veut se planquer, refuser le débat européen et nous explique que c'est une élection nationale et que si demain il arrive en tête des élections européennes, on va devoir dissoudre l'Assemblée nationale.
Ils sont deux parlements différents
qui n'ont strictement rien à voir. Mais ils refusent. Pourquoi le Rassemblement national refuse ce débat européen? Déjà parce qu'on voit qu'il est mal à l'aise de ses liens historiques et son alignement systématique sur le Kremlin. Et que sur tous les sujets européens, il n'a cessé de se contredire et de se dédire. Le Frexit, la sortie de l'euro, l'OTAN, la PAC. Est-ce que le RN soutient ou non la PAC pour nos agriculteurs? Il n'a rien à dire sur l'Europe. Et c'est pour ça, nous, on va aller le débusquer point par point sur le terrain, dans les plateaux télé, dans tous les débats que nous aurons avec le RN, qui est une menace pour notre continent et pour l'influence et la place de la France en Europe.
Valérie Ayer a présenté son programme pour la prochaine législature européenne. 48 propositions pour que l'Europe ne meure pas. Cette thématique qu'on a entendue employée également par Emmanuel Macron, d'une Europe en danger de mort, est-ce que ça n'est pas un peu « c'est nous ou le chaos » ?
Oui, les civilisations sont mortelles. Et oui, c'est un moment existentiel pour l'Europe.
Oui, mais est-ce que d'une certaine manière, vous dites « c'est nous ou le chaos » ?
J'ai dit simplement que l'heure est grave pour notre continent européen et qu'il faut qu'on soit capable d'en prendre conscience. Que nous avons une guerre d'agression sur le continent, que nous avons des crises à nos frontières, que nous avons aussi un continent qui est en perte de compétitivité économique face aux États-Unis, que le monde est en train de se restructurer dans une rivalité, une bipolarité entre d'un côté les États-Unis et la Chine et que la question qui se pose, elle est très simple. Si on veut survivre, exister, se battre sur la scène internationale, sur les grandes technologies, sur les innovations, sur le plan commercial et bien sûr sur le plan militaire, est-ce qu'on sera plus fort isolé, seul, comme le propose le Rassemblement national, ou est-ce qu'on sera plus fort de façon collective à 27 pour peser et pour prendre la maîtrise de notre destin ? L'Union européenne,
elle est imparfaite. Ce sont des négociations, c'est des processus parfois longs, parfois frustrants, dans lesquels il faut aussi d'ailleurs des parlementaires sur le terrain pour bosser au Parlement européen et faire des négociations comme le fait Valérie. Mais c'est la seule façon pour la France de prendre le contrôle, la maîtrise de son destin et peser sur la scène internationale.
Il nous reste à peu près 3 minutes, je voudrais qu'on aborde encore au moins 2 sujets, notamment celui-ci qui reste sur l'Europe. Est-ce que la France soutiendra une réélection de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, à la présidence donc de la Commission, après les élections ?
Ça, c'est une décision qui sera prise, vous le savez, par les chefs d'État et gouvernement, après l'élection, donc il y aura des candidats. Ursula von der Leyen a un bilan qu'il faut quand même mettre en avant. Moi, je pense notamment à la réponse à la crise Covid, à la question du soutien à l'Ukraine, à le plan de relance aussi de Covid, les 800 milliards d'euros qui avaient été poussés évidemment par la France et l'Allemagne, mais c'est une décision qui appartiendra aux chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais quand même rajouter peut-être un point là-dessus. En revanche, je serais inquiet de voir se dessiner une alliance avec des mouvements d'extrême droite, conservateurs ou souverainistes, comme par exemple celui de Madame Meloni et l'ECR, donc une force de droite dure au Parlement européen.
Vous voulez dire que Ursula von der Leyen passe des alliances avec ces mouvements?
Il avait été évoqué potentiellement une majorité avec ce type de mouvement. Ce sont des mouvements que nous combattons.
Vous êtes, Benjamin Haddad, un ancien de Sciences Po, qui est aujourd'hui en pleine crise, particulièrement autour de la question du conflit israélo-palestinien. Qu'est-il arrivé à cette grande école ?
Je vois cette école que j'ai aimée, qui tourne le dos à tous ses principes, les principes du débat, de l'universalisme républicain, de la laïcité, un débat qui a toujours été très... C'est une école politisée, donc qui est rugueux, qui est contradictoire, dans lequel on peut comprendre que les étudiants aient des convictions profondes à défendre. Mais là, on n'est pas dans le débat, on est dans le blocage, on est dans l'interdiction de débat et on est dans l'enfermement et l'assignation identitaire. Et ça, c'est l'importation d'idéologie outre-Atlantique. J'ai passé du temps aux États-Unis, je l'ai vu aussi ravager le débat intellectuel et culturel américain, du wokisme où on enferme les gens, non pas dans ce qu'ils ont à dire et dans ce qu'ils proposent, mais dans ce qu'ils sont, dans votre naissance, votre couleur de peau, votre religion. C'est contre tous les principes sur lesquels nous avons fondé notre tradition intellectuelle et politique. Moi, je combats ce wokisme, cette assignation identitaire.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un terme à
ça ? Déjà, je vais vous dire, il faut tout d'abord défendre la majorité des étudiants qui ont juste envie de bosser, d'étudier, de faire leur vie et de ne pas être pris en otage par une minorité de bloqueurs extrémistes et qui sont instrumentalisés par des forces politiques comme la France Insoumise qui tentent par la rue, le chaos et la violence d'imposer ce qu'ils n'arrivent pas à avoir par les urnes, c'est-à-dire de gagner les élections. Donc il faut protéger les étudiants, il faut rétablir l'autorité et puis après il faut mener ce combat intellectuel et culturel contre ces dérives identitaires.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Benjamin Haddad. Merci, bonne soirée.